Évangile selon Luc, chapitre 14. Guérison d'un homme hydropique. Versets 1 à 6. Lecture de la parole. Et il arriva que, comme il entrait un sabbat dans la maison d'un des principaux des pharisiens pour manger du pain, il l'observait. Et voici, il y avait un homme hydropique devant lui. Et Jésus, répondant, parla au docteur de la loi et aux pharisiens, disant, « Est-il permis de guérir un jour de sabbat ?» Et ils se turent. Et l'ayant pris, il le guérit et le renvoya. Et répondant, il leur dit, « Qui sera celui de vous qui, ayant un âne ou un bœuf, lequel vienne à tomber dans un puits, ne l'en retire aussitôt le jour du sabbat ?» Et il ne pouvait répliquer à ces choses.
Lecture de l'étude. Un des pharisiens invita Jésus à prendre un repas chez lui un jour de sabbat, en la compagnie de docteurs de la loi et d'autres pharisiens qui l'observaient. Ces malheureux cherchaient constamment de quelle manière ils pourraient trouver Jésus en défaut. Dans leur aveuglement, ils ignoraient qu'ils avaient devant eux celui qui voyait tout ce qui se passait dans leur mauvais cœur. C'est lui qui va les mettre à l'épreuve. En présence de Jésus se trouvait un hydropique. S'adressant à tous les personnages religieux qui l'entouraient, le Seigneur dit, « Est-il permis de guérir un jour de sabbat ?» Ils ne répondirent rien. Leur conscience ne le leur permettait pas. Jésus, l'ayant pris, il le guérit et le renvoya. Et répondant, il leur dit, « Qui sera celui de vous qui, ayant un âne ou un bœuf, lequel vienne à tomber dans un puits, ne l'en retire aussitôt le jour du sabbat ?» Le sabbat, quoique ordonné de Dieu, n'empêchait pas Jésus d'exercer son amour envers des malheureux, puisqu'il était Dieu venu en grâce dans ce monde pour travailler. Le péché n'étant pas ôté, son amour ne pouvait se reposer, ni introduire l'homme dans le repos que Dieu avait en vue en instituant le sabbat. Lorsque leurs intérêts étaient en jeu, ces grands observateurs du sabbat ne se faisaient pas scrupule de le violer. C'est ce que Jésus place sur leur conscience. Ils ne laissaient pas périr leur âne ou leur bœuf s'ils tombaient dans un puits ce jour-là. Or, si leur compassion pour ces animaux et leurs propres intérêts les engageaient à violer le sabbat, pouvaient-ils exiger que l'amour de Dieu envers ses créatures ne s'exerçât pas? Dieu ne se reposait pas en présence de la misère de ces hommes créés par lui pour qu'ils fussent heureux, mais tombés dans le malheur éternel par leur propre faute. Jésus dit aux Juifs en Jean 5, verset 17, « Mon Père travaille jusqu'à maintenant, et moi je travaille. » Il travaille à retirer du puits de la perdition éternelle ceux qui y sont tombés. C'est pour cela qu'il est descendu jusqu'à eux. Il s'est anéanti comme Dieu, prenant la forme d'esclave, étant fait à la ressemblance des hommes, est-il dit en Philippiens 2, verset 7-8, pour entrer dans la mort, pour sauver l'homme et l'introduire dans la jouissance du vrai sabbat, le repos éternel de Dieu. Philippiens 2, versets 7 et 8.
Mais s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'esclave, étant fait à la ressemblance des hommes. Et, étant trouvé en figure comme un homme, il s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix.
Voir Hébreux 4, versets 1 à 11.
Craignons donc qu'une promesse ayant été laissée d'entrer dans son repos, quelqu'un d'entre vous paraisse ne pas l'atteindre, car nous aussi nous avons été évangélisés de même que cela. Mais la parole qu'ils entendirent ne leur servit de rien, n'étant pas mêlée avec de la foi dans ceux qui l'entendirent. Car nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Comme il a dit, ainsi je jurai dans ma colère, s'ils entrent dans mon repos, bien que les œuvres aient été faites dès la fondation du monde. car il a dit ainsi quelque part touchant le septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres au septième jour. Et encore dans ce passage, s'ils entrent dans mon repos, puis donc qu'il reste que quelques-uns y entrent, et que ceux qui auparavant avaient été évangélisés ne sont pas entrés à cause de leur désobéissance, encore une fois il détermine un certain jour disant, en David, si longtemps après, aujourd'hui, comme il a été dit auparavant, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, car si Josué leur avait donné le repos, ils n'auraient pas parlé après cela d'un autre jour. Il reste donc un repos sabbatique pour le peuple de Dieu, car celui qui est entré dans son repos, lui aussi s'est reposé de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes propres. Appliquons-nous donc à entrer dans ce repos-là, afin que personne ne tombe en imitant une semblable désobéissance.
C'est pourquoi personne ne pouvait entraver l'activité de l'amour de Jésus un jour de sabbat. Aussi est-il dit qu'il ne pouvait répliquer à ces choses, verset 6. Le choix d'une place, versets 7 à 11.
Lecture de la parole. Or, il dit une parabole aux conviés, observant comment ils choisissaient les premières places. Et il leur disait, « Quand tu seras convié par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à table à la première place, de peur qu'un plus honorable que toi ne soit convié par lui, et que celui qui vous a convié, toi et lui, ne vienne et ne te dise, « Fais place à celui-ci », et qu'alors tu ne te mettes avec honte à occuper la dernière place. Mais, quand tu seras convié, va et assieds-toi à la dernière place, afin que, quand celui qui t'a convié viendra, il te dise, « Ami, monte plus haut ». Alors tu auras de la gloire devant tous ceux qui seront à table avec toi, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé.
Lecture de l'étude. Au cours du repas, Jésus observait comment les conviés choisissaient les premières places. Il s'adresse à eux en disant, « Quand tu seras convié par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à table à la première place, de peur qu'un plus honorable que toi ne soit convié par lui, et que celui qui vous a convié, toi et lui, ne vienne et ne te dise, « Fais place à celui-ci », et qu'alors tu ne te mettes avec honte à occuper la dernière place. » Versets 8 et 9. Dieu a convié le pécheur au banquet servi par son amour. Le temps de la grâce est celui dans lequel les places se prennent, car au ciel il n'y aura de places occupées que celles prises ici-bas. Les occupants, ceux qui acceptent la grâce que Jésus offre à tous, doivent porter comme caractère l'humilité dont il a donné l'exemple en prenant la dernière place pour venir nous sauver. L'homme, dans son état naturel, recherche la première place, être quelqu'un, arriver à une position plus élevée que ses semblables, est une pensée introduite dans le cœur de l'homme par Satan, lorsque, pour l'engager à prendre du fruit défendu en Éden, il lui dit, « Vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Dès lors, l'homme a toujours cherché à devenir ce qu'il n'était pas, et même il cherchera à s'élever jusqu'à ce qu'il arrive à se faire passer pour Dieu. 2 Thessaloniciens 2, verset 4.
Le fils de perdition, qui s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu, ou qui est un objet de vénération, en sorte que lui-même s'assiera au temple de Dieu, se présentant lui-même comme étant Dieu.
Arrivé là, il sera précipité dans l'abîme. 2 Thessaloniciens 2, verset 8.
Et alors sera révélé l'inique, que le Seigneur Jésus consumera par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'apparition de sa venue.
Apocalypse 19, verset 20.
Et la bête fut prise, et le faux prophète qui était avec elle, qui avait fait devant elle les miracles par lesquels il avait séduit ceux qui recevaient la marque de la bête, et ceux qui rendaient hommage à son image. Ils furent tous deux jetés vifs dans l'étang de feu embrasé par le soufre.
Celui qui cherche à s'élever de quelque manière que ce soit ne se doute pas qu'il agit avec les mêmes principes que l'homme de péché et qu'il se trouve sur la voie qui le conduira à prendre la place de Dieu, tandis qu'en imitant l'exemple de Jésus, en s'abaissant toujours, en s'associant aux humbles, personnes ou choses, on suit le chemin qui l'a conduit à la gloire et nous avec lui. Il s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a haut élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Philippiens 2, versets 8 et 9. Cet esprit d'humilité, de renoncement, d'abnégation de soi-même doit donc caractériser le croyant ici-bas, l'engager à s'abaisser toujours au milieu de ses frères et de tous, à ne jamais rechercher sa propre gloire, ni sa propre considération, à faire toujours place à d'autres, sauf pour les servir. Ce qui rend capable d'agir ainsi, c'est le fait d'être occupé de Christ, de contempler ce modèle parfait. Au verset 10, Jésus montre les conséquences de l'abaissement. « Mais quand tu seras convié, va et assieds-toi à la dernière place, afin que, quand celui qui t'a convié viendra, il te dise « Ami, monte plus haut ». Alors tu auras de la gloire devant tous ceux qui seront à table avec toi, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Comme nous l'avons dit, c'est aujourd'hui que le croyant prend la place qu'il occupera dans l'éternité. Le chemin de la gloire est donc l'humilité, le chemin que le Fils de Dieu est venu nous ouvrir en quittant la gloire pour descendre plus bas que nous ne sommes, car, ainsi que quelqu'un l'a dit, nous ne pouvons prendre la dernière place parce que Jésus l'a prise. Son abaissement a eu pour conséquence son élévation au-dessus de tout. C'est pourquoi Dieu l'a haut élevé. Plus le croyant suit de près le Seigneur dans son humilité et son abaissement, plus il sera près de lui dans la gloire, lorsque celui qui nous a invités prendra connaissance de la place que nous aurons prise ici-bas. Au plus humble, il dira « Monte ici », ce qui doit nous engager à nous mieux conformer au modèle que nous avons en lui, c'est le désir de suivre Jésus, d'être avec lui dans sa communion, dans son chemin d'obéissance, et non la pensée d'une place élevée dans la gloire. Quoi de plus précieux pour l'âme que l'imitation d'un modèle pareil? Cependant, tout porte ses conséquences dans l'éternité. L'appareil rendu à la résurrection. Versets 12 à 14.
Lecture de la parole. Et il dit aussi à celui qui l'avait convié, « Quand tu fais un dîner ou un souper, n'appelle pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins, de peur qu'eux aussi ne te convient à leur tour et que l'appareil ne te soit rendu. Mais quand tu fais un festin, convie les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles, et tu seras bien heureux, car ils n'ont pas de quoi te rendre l'appareil. » Car l'appareil te sera rendu en la résurrection des justes.
Lecture de l'étude. Après les conviés, Jésus s'adresse à son hôte afin de lui enseigner, et à nous aujourd'hui, de quelle manière nous comporter. Contrairement au monde qui vise un avantage immédiat, le chrétien doit agir en vue du ciel, où il obtiendra la rétribution de sa conduite. Jésus dit, « Quand tu fais un dîner ou un souper, n'appelle pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins, de peur qu'eux aussi ne te convient à leur tour et que l'appareil ne te soit rendu. Mais quand tu fais un festin, convie les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles, et tu seras bien heureux, car ils n'ont pas de quoi te rendre l'appareil. Car l'appareil te sera rendu en la résurrection des justes. Racheté de ce monde et des conséquences du péché, le chrétien appartient au ciel, Par conséquent, en attendant d'y être, il doit porter les caractères de Jésus et agir en vue du ciel. Sur la scène de ce monde se meut celui qui demeure étranger à la vie de Dieu. Il ne peut agir en vue du ciel. Tout ce qu'il fait est pour la terre, pour ses avantages actuels. Aucun autre motif ne l'inspire. Si un homme du monde offre un festin, il sera aimable et courtois avec ses hôtes. Il veillera à ce que rien ne leur manque. Il paraîtra ne rechercher que leur bien-être et leur jouissance. Mais la satisfaction qu'il paraît en éprouver ne lui suffirait nullement si, à leur tour, ses hôtes ne lui rendaient pas la pareille en tout point. Au fond, ce n'est que de l'égoïsme, tandis que de tout autre motif pousse le croyant. En lui communiquant la vie de Jésus, Dieu l'a rendu capable d'agir selon les principes de sa propre nature, l'amour qui ne cherche pas son propre intérêt, qui est plein de bonté. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7.
L'amour use de longanimité, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil, il n'agit pas avec inconvenance. Il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'irrite pas, il n'impute pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit avec la vérité. Il supporte tout, croit tout, espère tout, endure tout.
Il poursuit toujours l'intérêt d'autrui en s'oubliant lui-même. Tel fut le Seigneur Jésus dans ce monde, et c'est ainsi que le croyant doit agir. S'il ne reçoit pas, en retour, une récompense présente, il en obtiendra une en la résurrection des justes. Il n'est pas pour toujours ici-bas. Par grâce, il appartient au ciel, où son activité trouvera sa juste rétribution. La séparation du monde et de ses principes doit le caractériser dans toute sa vie. Elle se poursuit jusque dans la résurrection. Objet de la faveur de Dieu, il ne ressuscitera pas en même temps que les méchants, pas plus qu'il ne sera avec eux dans l'éternité. La résurrection des justes est une résurrection d'entre les morts. Elle aura lieu plus de 1000 ans avant celle des méchants, qui ne se produit qu'au dernier jour, pour les amener devant le grand trône blanc où ils seront jugés selon leurs œuvres. La résurrection d'entre les morts est appelée aussi la première résurrection. Apocalypse 20, verset 6.
C'est ici la première résurrection. Bienheureux et saint celui qui a part à la première résurrection. Sur eux, la seconde mort n'a point de pouvoir. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui 1000 ans.
Elle doit intervenir nécessairement avant celle des méchants, parce que les saints ressusciteront et seront transmués à la venue du Seigneur, afin d'apparaître avec lui lorsqu'il viendra établir son règne. Zacharie 14, fin du verset 5.
Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous les saints avec toi.
1 Thessaloniciens 3, verset 13.
Pour affermir vos cœurs sans reproche, en sainteté devant notre Dieu et Père, en la venue de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints.
Apocalypse 19, verset 14.
Et les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus de fin lin blanc et pur.
Elle doit avoir lieu aussi avant le règne de Christ, pour ceux qui seront mis à mort entre l'enlèvement des saints et la venue de Christ en gloire. Voir Apocalypse 20, versets 4 à 6.
Et je vis des trônes, et ils étaient assis dessus, et le jugement leur fut donné. Et les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient pas rendu hommage à la bête ni à son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Et ils vécurent et régnèrent avec le Christ 1000 ans. Le reste des morts ne vécut pas jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est ici la première résurrection. Bienheureux et saint, celui qui a part à la première résurrection. Sur eux la seconde mort n'a point de pouvoir, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui 1000 ans.
Ils ressusciteront d'entre les morts pour régner avec le Christ durant les 1000 ans, verset 6. On voit combien la pensée d'une résurrection générale est erronée. La résurrection d'entre les morts est une nécessité absolue pour la manifestation de la gloire de Christ, qui sera, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, de Thessaloniciens 1, verset 10.
Quand il viendra pour être dans ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage envers vous a été cru.
D'après les enseignements de ce chapitre, comme dans ceux qui précèdent, Jésus veut que le croyant puise ses motifs d'action dans la pensée de Dieu, qui porte toujours ses regards au-delà de la vie présente et sur le modèle parfait qu'il possède en Christ, ici-bas la manifestation de la vie divine. Nous avons vu au chapitre 12 qu'il ne faut pas craindre les hommes que l'on voit, mais Dieu qui a tout pouvoir au-delà de la mort. Devant les anges de Dieu, le Fils de l'homme confessera ceux qui n'auront pas eu honte de lui. Ce n'est pas pour ici-bas qu'il faut être riche, mais pour le ciel, riche quant à Dieu. Faisons-nous des trésors dans les cieux et non sur la terre. Vivons et agissons en vue du moment où Christ viendra. La récompense des serviteurs se trouvera aussi dans le ciel. Le même enseignement se poursuit dans les chapitres qui suivent. L'invitation au grand souper, versets 15 à 24.
Lecture de la parole. Et un de ceux qui étaient à table, ayant entendu ces choses, lui dit : Bienheureux celui qui mangera du pain dans le royaume de Dieu. Et il lui dit : Un homme fit un grand souper et y convia beaucoup de gens. Et à l'heure du souper, il envoya son esclave dire aux conviés : Venez, car déjà tout est prêt. Et ils commencèrent tous unanimement à s'excuser. Le premier lui dit : J'ai acheté un champ, et il faut nécessairement que je m'en aille et que je le voie. Je te prie, tiens-moi pour excusé. Et un autre dit : J'ai acheté 5 couples de bœufs, et je vais les essayer. Je te prie, tiens-moi pour excusé. Et un autre dit : J'ai épousé une femme, et à cause de cela je ne puis aller. Et l'esclave, s'en étant retourné, rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, en colère, dit à son esclave : Va-t'en promptement dans les rues et dans les ruelles de la ville, et amène ici les pauvres et les estropiés, et les aveugles et les boiteux. Et l'esclave dit : Maître, il a été fait ainsi que tu as commandé, et il y a encore de la place. Et le maître dit à l'esclave : Va-t'en dans les chemins et le long des haies, et contrains les gens d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous dis qu'aucun de ces hommes qui ont été conviés ne goûtera de mon souper.
Lecture de l'étude. Un des convives, ayant entendu ce que Jésus enseignait, lui dit : Bienheureux celui qui mangera du pain dans le royaume de Dieu, verset 15. En effet, celui-là sera bienheureux. Mais Jésus répond en montrant comment les hommes, les Juifs premièrement, répondent à l'invitation divine. Il compare Dieu à un homme qui fit un grand souper et y convia beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya un esclave dire aux conviés de venir, car tout était prêt. À l'ouïe de cette invitation, tous s'excusèrent sans exception. L'un d'eux avait acheté un champ et voulait aller le voir. Un autre avait acquis 5 couples de bœufs, il devait les essayer. Un autre encore venait de se marier et ne pouvait aller. Chacun, dans les circonstances où il se trouve, a des raisons qui lui paraissent valables, parce qu'il n'est occupé que des choses présentes et matérielles. Elles absorbent entièrement ses pensées. Elles suffisent à son cœur, comme nous l'avons vu avec l'homme riche du chapitre 12, parce qu'il ne se préoccupe pas du salut de son âme. Les offres d'une joie céleste et éternelle n'ont rien d'attrayant pour son cœur qui est de la terre et auquel il faut les choses de la terre. Toutes celles qui ne sont pas mauvaises en elles-mêmes le deviennent, car elles ont servi à détourner les hommes de la vie éternelle en les détournant de Christ. Ce qu'il y a de triste à constater dans l'état de l'homme, c'est que toutes les excuses qu'il avance proviennent de la répugnance de son propre cœur pour les choses de Dieu, ce qui lui fait mépriser la grâce dont il est l'objet de la part du Dieu d'amour. Après avoir essuyé les refus des premiers invités, qui sont les Juifs du temps où Jésus était sur la terre, le maître de la maison, en colère, dit à son esclave « Va-t'en promptement dans les rues et dans les ruelles de la ville, et amène ici les pauvres et les estropiés, et les aveugles et les boiteux. » Et l'esclave dit « Maître, il a été fait ainsi que tu as commandé, et il y a encore de la place. » Verset 21-22. La ville où l'on appelait les malheureuses au festin représente encore Israël. Ces misérables, ceux qui se reconnaissent moralement tels devant Dieu, en contraste avec les orgueilleux chefs des Juifs, scribes, pharisiens et tous ceux animés du même esprit, reçurent en grand nombre le second message adressé par les apôtres aux Juifs après le départ de Jésus. Voir les Actes des apôtres. Mais il y avait encore de la place au banquet de la grâce, et un troisième appel a lieu en faveur des gentils. Et le maître dit à l'esclave, « Va-t'en dans les chemins et le long des haies, et contrains les gens d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous dis qu'aucun de ces hommes qui ont été conviés ne goûtera de mon souper. » Verset 23-24. Grâce à Dieu, le nombre de ceux qui ont répondu à ce troisième appel est déjà grand, car par la destruction de Jérusalem et la dispersion du peuple parmi les nations, Dieu a mis fin à son œuvre spéciale parmi les Juifs. Ses serviteurs contraignent les gentils d'entrer. Ce travail, encore inachevé aujourd'hui, va se terminer par la venue du Seigneur. Les dernières paroles que Jésus prononça sont solennelles. Elles ont eu leur accomplissement pour les Juifs. Aucun de ceux qui refusèrent de recevoir Christ, de prendre part au souper de Dieu, ne fut épargné lorsque les jugements tombèrent sur la nation, et il va en arriver de même au peuple christianisé, évangélisé depuis si longtemps. Tous ceux